bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h.
Bienvenue dans la bande originale aujourd'hui autour de la table. Pas de Nagui, non, toujours pas, mais Albert Algou.
Bonjour.
Alexis Le Rossignol.
Bonjour.
Frédéric Sigrist.
Bonjour.
En deuxième heure, bien évidemment, Tanguy Pastureau qui viendra nous maltraiter l'info. Et à mes côtés, Leïla Kadour Boudadi.
Bonjour à tous. Dans la bande originale aujourd'hui, nos invités Sabrina Ouazani et Mohamed Hamidi. Bonjour Mohamed Hamidi.
Bonjour.
Vous êtes le premier. Sabrina va nous rejoindre dans quelques minutes.
Pour la deuxième heure.
Oui. Et puis ça tombe bien, comme c'est la première fois qu'on se voit autour de cette table, c'est la première fois que vous venez dans cette émission, on a le temps de vous accueillir, de prendre un peu soin de vous. Comment allez-vous ce matin ?
Ça va très bien, ça va très bien. À 24 heures de la sortie du film,
ouais.
Forcément, la tension monte un peu, mais je suis très heureux d'être là.
Un peu tendu ?
Un petit peu, mais c'est vrai que ça fait tellement longtemps maintenant qu'on tourne avec le film et qu'on le montre depuis plus d'un mois que ça y est, ça commence à se détendre forcément.
Combien d'années de boulot ?
Alors un film, c'est, on va dire, il y a du boulot souterrain, je dirais peut-être 3-4 ans de boulot souterrain, le temps que l'histoire mature un peu, et après le travail vraiment effectif, c'est 2 ans. Entre l'écriture, le tournage, le montage, la sortie, c'est à peu près 2 années. Ouais.
2 années pour jusqu'ici, tout va bien. Donc en salle, dès demain, 27 février, avec un très beau casting, Sabrina Ouazani qui va nous rejoindre, Camille Lou, Hugo Becker, Anne-Elisabeth Blateau, Loïc Legendre, deux têtes d'affiche, Malik Bentala, Gilles Lelouch. Juste en quelques mots, l'histoire de ce film qui prend place dans une agence de communication parisienne,
de tricheurs,
plutôt branchée. On va y venir, en tout cas elle est tenue par Gilles Lelouch, qui est un homme séparé, qui a un ado à la maison. Donc on voit que la vie, elle n'est pas complètement en place. Et là, leur tombe dessus un contrôle fiscal. Et on découvre que ce chef d'entreprise a bénéficié d'un dispositif, à savoir prétendre installer son entreprise en zone franche, à savoir en banlieue à La Courneuve, qui est une sorte de paradis fiscal à ce moment-là avec les lois de l'État. Mais il ne l'a pas fait et il bénéficie quand même de l'exonération d'un certain nombre de charges et d'impôts sur le revenu de la société. Et il est contraint de devoir déménager manu militari, il a quoi, 2 jours, pour transporter toute sa petite entreprise parisienne en zone franche à La Courneuve.
Il paye une amende, une fortune.
Ah voilà,
exactement.
Voilà. Il paye une amende ou il joue le jeu.
Mais c'est vrai que ce principe de la zone franche existe et il a été détourné quelques fois. Je ne crois pas que les sanctions soient de ce niveau-là. Malheureusement, c'est souvent effectivement des sanctions financières. Or, moi, je suis pour les sanctions réelles. Je trouve que là, j'ai trouvé intéressant de l'obliger à partir comme ça du jour au lendemain, un espèce de travaux d'intérêt général comme ça, pour pouvoir effectivement tenir sa promesse. Beaucoup d'entreprises ont simulé l'installation en zone franche, n'y sont
comment
pas vraiment allées.
Comment on s'en rend compte? C'est quand on va en banlieue, il y a quoi? Il y a des
boîtes portes? Moi, la première fois que je m'en suis rendu compte, je pense que c'est là que j'ai eu la première fois l'idée de faire ce film, c'est qu'il y a un certain nombre de boîtes aux lettres, et quand on regarde, les locaux sont vides. Et en fait, ce sont des gens qui prennent des adresses, c'est une espèce de société écran, en fait. Alors, heureusement, je crois que les contrôles sont un peu plus importants depuis quelques années, mais c'est arrivé quelques fois au début du dispositif, et donc c'est un dispositif qui n'était pas très efficace.
Et alors, vous l'avez compris, le ressort principal de cette comédie, c'est tout d'un coup ce déménagement de cette société à La Courneuve, c'est la rencontre de deux univers, de codes, d'usages qui sont très différents. Il va falloir réussir à se comprendre, à se parler, à avancer ensemble. Certains personnages vont faire un chemin plus grand que d'autres, on va dire ça comme ça. Et c'est aussi ce principe-là fort de la comédie, mais qui n'est pas moralisateur et qui joue à détourner les clichés, en somme, Mohamed Hamidi.
C'est vrai que moi, plus que de clichés, je parle de préjugés, parce qu'effectivement, on sait qu'il y a des préjugés des Parisiens à l'encontre des gens de banlieue et vice-versa.
Et vice-versa, ouais.
Et effectivement, là, vu le postulat du film, emmener une boîte de bobos parisiens comme ça, travailler à La Courneuve, du jour au lendemain, forcément, ils n'y vont pas de gaieté de cœur. Ils y vont avec quelques réserves, quelques peurs même. Et puis, moi, ce qui m'intéresse, c'est la durée. Et c'est vrai que moi, j'ai travaillé pour un média qui s'appelle le Bondi Blog. Qu'on a travaillé avec, il y a quelques années. Et effectivement, on a reçu beaucoup de journalistes. Et ce qui m'a intéressé dans cette démarche, lorsque j'ai vu des journalistes s'installer à Bondi dans la durée, c'est qu'effectivement, je me suis dit que s'ils s'installaient longtemps, ils auraient l'occasion de voir un certain nombre de choses qu'on ne voit pas forcément quand on vient faire un sujet en 5 minutes. Et là, c'est un peu pareil, le fait qu'ils s'installent durablement comme ça à La Courneuve avec toute son équipe, on sent que voilà, il va forcément se rendre compte que la vie est partout comme ailleurs, quoi.
Et vous racontez aussi que vous avez été confronté dans votre expérience personnelle à des journalistes parisiens, parce que vous, vous connaissez très bien la banlieue, vous y avez vécu, je crois, au moins 45 ans finalement.
Ouais, jusqu'à l'année dernière.
L'année dernière, donc, et qu'on vous a presque demandé, et ça fait référence à une scène du film, de servir de sorte de guide, comme si on allait aux eaux de Thoiry.
Exactement, ouais, c'est vrai qu'à une époque, notamment au moment des violences là, de 2005, les journalistes avaient envie rapidement de faire un tour des quartiers, ils voulaient aller à Clichy-sous-Bois, ils voulaient aller à Bondy, ils voulaient voir la Courneuve. Et effectivement, ils appelaient, ils avaient un peu peur de le faire seul. C'est vrai que l'atmosphère était un peu tendue.
Mm-hmm.
Et ils cherchaient des espèces de fixeurs. Ouais. Ils cherchaient des espèces de fixeurs.
Comme en zone de guerre, hein, c'est le vocabulaire qu'on emploie.
Exactement. Ils nous demandaient de les accompagner. Alors bien sûr, moi je refusais systématiquement et je demandais aux jeunes de refuser de le faire. Par contre, je leur disais, si vous voulez bien, on a de jeunes journalistes qui peuvent faire ce tour pour vous et faire des vrais sujets, des vrais reportages avec leur regard et leur angle à eux. Et c'est ce qu'on a réussi à faire avec le temps, en formant des journalistes dans les quartiers qui sont devenus ensuite des journalistes dans des grandes rédactions.
C'est un film réjouissant, Mohamed Hamidi, parce qu'en effet, il y a cette rencontre de deux univers qui est toujours traitée avec humour, qu'on voit bien comment la comédie peut s'installer dans ces circonstances-là. On va essayer d'apprendre à mieux vous connaître, puisque c'est la première fois, je le disais, Mohamed Hamidi, avec notre traditionnel interro début d'émission, qui fera sans doute venir Sabrina Ouazani, qui est retenue dans les embouteillages. Oui, on va l'invoquer. On va faire une danse à Sabrina Ouazani. Alors, c'est parti pour la première question concernant Mohamed Hamidi. Mohamed a participé au film Intouchable, le saviez-vous, mais dans quelles circonstances?
En technique, côté technique.
Technique, non.
Il y a un rapport à une forme de technique, ouais. C'est lui, Audrey Fleurot. C'est la doublure lumière d'Audrey Fleurot.
Non, il a donné des cours de danse à Omar.
Non. Qu'est-ce que vous pouvez bien faire?
C'est un grand mot, moi, je dirais. Mais
oui, il y a une collaboration.
Doubleur fauteuil.
Conseiller.
Alors, conseiller, c'est absolument ça. Ah, conseiller technique, mais à quel sujet, moi, Mme Hamidi, on va préciser.
En fait, c'est un peu un détournement de vocabulaire. J'ai pas été conseiller technique. Sauf que j'ai rencontré Eric et Olivier au moment où ils préparaient Intouchable.
Ouais.
Et que, dans nos longues discussions, c'est grâce à eux que je suis arrivé chez Quad avec pour mon premier film qui s'appelait Né quelque part. Et en fait, ils cherchaient un quartier où établir la vie du personnage d'Omar. Et il se trouve qu'en échangeant longtemps, on a parlé de Bondy. Et c'est pour ça que le film a été tourné en partie à Bondy. Toute la partie quartier d'Omar, d'Intouchable, est tourné à Bondy Nord, donc c'est chez moi. Hein. Et en fait, conseiller, c'est un grand mot. Non, on a juste beaucoup échangé sur les quartiers à ce moment-là, et effectivement, ils ont dû donc peut-être aller à Bondy.
Vous êtes un peu le parrain de Bondy, en fait.
Ouais, en quelque sorte, le maire.
Lui et Kylian Mbappé. Hein.
Ah, les deux. Vous l'entendez,
les maires ont été exaucés.
Sabrina nous a rejoint, la vocation.
On a pris très fort, elle était apparue.
Oui, on a fait un petit chant incantatoire pour vous faire venir, mais Sabrina Ouazani. Ben, ça tombe bien, parce que la question qui suit, elle vous concerne. Que Sabrina a-t-elle offert à ses parents?
Une voiture, une maison.
Bravo, une maison.
Une maison.
Sabrina.
J'ai moi qui l'ai dit.
Pardon, Alexis. Une maison.
Ouais, une maison. Depuis que je suis toute petite, je rêvais d'offrir cette maison à mes parents. J'ai économisé longtemps.
Qu'est-ce que c'est beau?
Oh, je sais pas, c'est le juste retour des choses. J'ai l'impression qu'ils méritent bien, bien plus que ça.
Ouais, c'est important de les gâter encore.
C'est important de les gâter. C'est important aussi qu'ils aient leur mur, leur chez eux, qu'ils se sentent chez eux et voilà, ils nous ont tant donné à moi et mon frère et ma sœur, donc c'était le minimum.
Ce sera quoi le prochain cadeau, parce que là, la barre est placée très haute.
Une villa au soleil.
Et le frère et la sœur ont participé aussi?
Ils ont pas pu, mais ils ont participé avec le cœur. Ils sont venus visiter avec
moi. Ça se doit être bien dans la fratrie, hein. C'est bien le cadeau qui est offert.
Non, ils font tellement d'autres choses, tellement plus importantes que du matériel.
C'est vous l'enfant qui préfère.
Qu'est-ce que vous êtes chouette, Sabrina? Qu'est-ce que vous êtes chouette, Sabrina Ouazani? C'est beau, ça m'émeut vraiment. Ça m'émeut vraiment. On continue une question.
Quand t'as fait une maison,
mais j'adorerais faire ça aussi un jour. Mohamed, une question vous concernant. Dans quelle discipline, Mohamed, est-il agrégé?
Philosophie.
Non.
Économie.
Bravo.
Ouais.
Économie.
Oh là là.
Économie, gestion.
Il triche.
Il est dopé.
Et je crois que vous êtes un peu un autodidacte. Vous avez passé les concours.
Oui, en solo, ouais, c'est vrai.
Solo, ça veut dire quoi, ça?
Autodidacte en économie, on appelle ça un escroc.
C'est
bien.
C'est Bernard Tapie.
Non, c'est vrai que
droit de réponse.
Devient diplômé d'une manière autodidacte.
Non, c'est vrai que j'ai pas fait les écoles prépa et les UFM pour préparer les concours. En tout cas, j'étais étudiant, à la fac. En plus, j'étais à la fac vraiment en banlieue, parce que moi, j'étais à Saint-Denis.
Ouais.
Et toi aussi, bah oui, on s'est pas croisés parce qu'on a quelques années de différence. Mais et puis voilà, quand j'ai passé d'abord le CAPET et de décogestion, effectivement, que j'ai préparé avec le CNED en fait en candidat libre, parce qu'à l'époque je bossais pas mal déjà, j'étais animateur et même directeur d'un centre de loisirs à Bondy. Et puis ensuite, voilà, tout en enseignant, j'ai préparé aussi de mon côté l'agrégation que j'ai passé 2 ou 3 ans plus tard, je crois. Et oui, c'est vrai que je suis pas allé trop dans les écoles de préparation de ces concours-là. J'ai réussi à les préparer de mon côté. Mais c'est comme le métier de réalisateur.
Ça demande une force de caractère particulière, hein, passer un concours comme ça sans être encadré. Il faut être vraiment déterminé.
Bah, disons que, moi, je pense, j'ai été prof longtemps, hein. J'étais prof, je sais pas, j'ai envie de dire 14 ans, je crois. Je crois que c'est ça, 14 ans.
Ah, comme moi.
Et en fait, je me suis battu longtemps et je suis plus prof aujourd'hui, mais je continue à penser que le plus important, sans faire de grandes phrases naïves, mais c'est d'apprendre à apprendre. Je pense que
c'est une grande phrase naïve.
À partir du moment,
non,
mais la vérité, c'est qu'à partir du, par exemple, quand j'étais prof d'éco, on me disait, voilà, le chômage, c'est 2 heures de cours, la croissance, c'est 3 heures. Or, j'aurais bien voulu passer 6 mois sur le chômage ou 6 mois sur la croissance et dire aux gamins, voilà, maintenant que vous savez ça, maintenant que vous avez lu des bouquins, des journaux, des dossiers, etc., vous pouvez apprendre le reste tout seul, en fait.
Ouais, vous avez
je trouve
les
qu'on ne fait pas assez. Je trouve qu'on on survole un certain nombre de choses et on ne rentre pas assez
profondeur
dans
les sujets. Le programme a fini, les fameuses instructions officielles. Sabrina Ouazani a disputé la demi-finale d'un championnat de France. Dans quelle discipline ?
Handball.
Non.
Sport collectif.
Basket.
Sport collectif, ouais.
Course à pied.
Volley.
Football.
Volley. Rugby.
Rugby. Bravo pour le rugby, Albert.
Bravo.
Vous étiez mes championnes de rugby, alors.
J'étais talonneuse, effectivement.
Talonneuse, donc première ligne au milieu dans la mêlée.
Bien évidemment.
Faut pas avoir peur pour son nez.
Les oreilles, ça va?
Les oreilles, tout va bien. Ils se portent bien. Oui, effectivement, quand j'étais petite, on pensait que j'étais hyper active. Et du coup, ma mère, avec mes parents, on a cherché un sport pour bien m'épuiser.
Ouais.
Et on a trouvé le rugby. Effectivement, c'est devenu une passion.
Et vous avez fait plein d'autres sports, je crois, hein.
Oh oui.
Tous les sports, vous avez touché à tout.
Ouais, je crois, même le canoë-kayak, pour vous dire.
Voilà, vous allez loin, là.
C'est pour dire.
C'est vrai, si, au parc de la Courneuve.
Question pour vous concernant Mohamed Hamidi. Votre prochain film sera Les Joueuses, un film sur l'univers du football féminin. Ou en tout cas, le titre peut avoir évolué. Pourquoi est-ce que Mohamed Hamidi est bien placé pour connaître un peu le sujet ?
Il a été entraîneur aussi.
Non.
Il le pratique lui-même. Il le pratique.
Non.
Il a été joueuse.
Il a une fille, ouais.
Il a une fille qui joue.
Non.
Sa
non.
femme est entraîneur.
Non plus.
Il a cousu des ballons quand il était enfant.
Non plus. C'est lié à l'enfance, quand même.
C'est lié à l'enfance et à la famille.
Et ouais.
Vous aviez des sœurs qui jouaient ?
Qui jouaient, enfin, quelques-unes, ouais, mais j'ai surtout beaucoup de sœurs.
Mais qui jouaient à quoi ? Qui jouaient à quoi ?
Il servait de ballon avec ses sœurs ?
On va s'arrêter là. Mohamed a 6 sœurs. Donc, forcément, tout d'un coup, l'univers du football, de l'équipe, de filles.
Oui, et puis j'ai une nièce qui joue au foot aussi. C'est vrai que j'ai beaucoup de femmes autour de moi, dans ma famille. Donc, mes 6 sœurs et un certain nombre de nièces. Et j'ai une nièce qui joue au foot. Et voilà, c'est. En fait, j'avais envie de faire un film qui parle plus de l'univers féminin. Les films ont été plutôt masculins jusque-là. Et j'ai tellement aussi vu de choses. Et c'est marrant parce que lorsque je vois des séquences, je suis actuellement en pleine fin de montage. Je me rends compte, par exemple, que les 6 personnages principaux, parce que ce sont des femmes, sont nombre de 6. Et je ne l'avais même pas fait exprès.
C'est vrai.
Et en fait, je me suis rendu compte, en montant une scène de thé, où elles prennent le thé, je me suis rendu compte qu'elles étaient 6. Et c'est complètement inconscient. Et j'ai 6 sœurs, donc voilà.
C'est bien, Mohamed, on avance.
Oui, je m'allonge sur quel canapé.
Vous me sentirez tellement bien à la fin de cette émission.
Et donc, jusqu'ici, tout va bien. Les filles ne sont pas en reste, au contraire. Alors, on a évoqué rapidement l'histoire, le pitch de départ de ce film, ce chef d'entreprise parisien qui a fraudé, qui se fait redresser par le fils parce qu'il a déclaré avoir installé son entreprise en zone franche pour bénéficier de tout un tas d'exonérations fiscales. Il est contraint de déménager en 2 secondes et d'arriver dans un univers qu'il ne connaît pas du tout et que toute son équipe ne connaît pas. Leïla, Sabrina Ouazani, vous incarnez le personnage de Leïla. Vous êtes très beau prénom, je conviens.
Tranquille.
Mais je me le dis toute seule.
On cherche pas l'intégration aujourd'hui.
Ça va pas s'arranger tout à l'heure avec notre spécialiste. Vous allez voir, vous êtes en minorité.
Je dis aux auditeurs, vous n'êtes pas sur Beurre FM. Vous êtes sur Radio France.
Non, mais il y a
bien sur France Inter.
Le spécialiste aujourd'hui, c'est Éric Zemmour.
Voilà, ça va venir contrebalancer. En tout cas, votre personnage, pardon, Sabrina, on y revient, est le bras droit de Gilles Lellouche. C'est une fille qui connaît très très bien le monde de la com, qui a l'air d'être très au fait de son boulot, qui est vraiment la personne de confiance sur laquelle il s'appuie, et qui aussi connaît l'univers de la banlieue.
De la banlieue, où elle a grandi.
Elle a grandi, donc elle n'est pas, elle, en voyage touristique quand elle arrive en zone franche. Elle connaît les ressorts de la
même
banlieue.
Même au départ, elle est hostile à ce retour.
Elle est assez réticente, effectivement, à certains...
C'est Gilles Lellouche qui est obligé de lui dire,
c'est revenir de là d'où elle vient, finalement.
Oui, c'est revenir de là où elle vient. Ouais. Elle a forcément quelques traumatismes, quelques mauvais souvenirs, ouais, on va dire. Donc elle a certaines réticences à y retourner. Effectivement, elle est c'est au-delà d'être le bras droit de Fred, donc interprété par Gilles Lellouche, c'est aussi son ami. Il lui a aussi tendu la main à un moment, donc forcément elle y retourne pour lui. Et puis elle va être aussi agréablement surprise de retrouver des codes qui finalement ont pu lui manquer.
Ouais, ouais. Et alors, vous avez tourné dans plusieurs lieux, je crois,
ouais,
notamment
à la Courneuve.
À la Courneuve, à la Cité des 4000, ouais, à la maison.
À la maison, avec ma mère et mon père qui étaient derrière le combo.
Ça va, je confirme. La script, c'était la maman de Sabrina. C'est celle-là, elle est bonne, on la prend. C'est elle qui choisissait les prises, en fait.
Et du coup, Sabrina, bon, alors, on l'a dit, donc, Mohamed.
Toutes ces scènes, il n'y a que des gros plans sur moi.
Il n'y a que des gros plans. Et j'imagine qu'il y a tous les figurants que vous avez aussi recrutés sur place.
Bien sûr, à Aubervilliers, à la Courneuve. En fait, toute la partie entreprise, zone franche, on l'a tournée à Aubervilliers, au fort d'Aubervilliers. Et toute la partie quartier, on l'a tournée au 4000 à la Courneuve.
Et là, vous, tous les deux, comme vous l'avez dit, Mohamed Hamidi, vous avez passé jusqu'à l'année dernière toute votre vie en banlieue. Sabrina, vous connaissez aussi bien l'univers. Oui. C'était aussi intéressant d'avoir votre regard tous les deux sur le film pour voir ce qui relevait du réel ou en tout cas ce qui pouvait être vraisemblable parce qu'une comédie s'appuie quand même sur des choses assez concrètes.
Non, c'est vrai que Sabrina, comme moi, comme un certain nombre d'autres acteurs, hein, il y avait aussi Karim Belkadra, qui jouait d'ailleurs dans La Haine et qui lui vient d'Aubervilliers. Il y avait un jeune qui s'appelle Arman, qui lui venait d'Aulnay-sous-Bois. Un certain nombre de jeunes qui connaissaient bien les quartiers. C'est vrai qu'on était hyper à l'aise, à Aubert comme à la Courneuve, parce que c'est un milieu, voilà, dans lequel on évolue tout le temps.
Oui. Alors, forcément, le titre de votre long métrage fait référence à ce film, La Haine. Il y a quelques films comme ça qui sont intéressés à la banlieue. Généralement, c'est pas vraiment des comédies. C'est soit des films assez militants, engagés, ou des films qui parlent plutôt des difficultés. Là, on a un film qui est solaire, je vous l'ai dit, en ouverture d'émission, Mohamed Hamidi et Sabrina Ouazani. C'est-à-dire qu'on en fait un univers où on peut se rencontrer, on peut rire. La référence à la haine, elle est assumée jusque dans le titre. Pourquoi donc ?
Bien sûr, c'est vrai que la plupart des films sur la banlieue que moi j'ai aimés sont des films plutôt dramatiques. Que ce soit La Haine, que ce soit Ma Cité va craquer, que ce soit Divine, qui sont des très bons films, que ce soit Chouf, ou que ce soit voilà un certain nombre de films qu'on a beaucoup suivis. Mais c'est vrai que moi, quand je pense à mes années en banlieue, notamment mon enfance et mon adolescence, j'ai avant tout des souvenirs joyeux. Et j'avais aussi envie de prendre le contre-pied des films un peu durs, où on voit souvent où ça se tire dessus, etc. On va dire que, je vais pas dire que ça n'existe pas, mais c'est pas ce qu'on voit tous les jours en sortant de chez soi, quand on habite en banlieue, et loin de là, très loin de là.
Mais disons-le, jusqu'ici tout va bien, un film très drôle.
C'est un film très drôle, c'est une comédie.
Merci.
On a passé un très bon moment, vraiment.
Ça a été fait vraiment dans cet esprit-là. Il se trouve que, moi, j'ai fait deux films qui étaient des comédies dramatiques juste avant, Né quelque part et La Vache, qui était plutôt une comédie humaine. Et là, c'est vrai que, faisant beaucoup de scènes aussi avec Jamel Debbouze, notamment avec Malik Bentala, là, je suis plus dans cette énergie-là, l'énergie du stand-up, l'énergie de la vanne, de la situation comique. Et j'ai ce rythme-là, j'ai voulu aussi avoir ce rythme-là dans Jusqu'ici tout va bien.
Et les situations comiques, elles arrivent très très vite dans ce film, parce qu'à partir du moment où il faut traverser le périph, arriver à la Courneuve, autant quand on est à Paris, s'il y a une voiture qui est stationnée devant vous, on n'a pas de problème à klaxonner pour lui demander de bouger du passage. Quand on arrive à la Courneuve, Gilles Lellouche a des réticences à se manifester, et on a quand même aussi cette bande-son qui accompagne le film, qui est géniale. Je pense notamment à NTM, Seine-Saint-Denis Style, ça c'est quand même bon. Pop, 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 pop. Mais pour le hip-hop, je développe la scène Sunny. C'est de la bombe, bébé. Et c'est un péril, et ça s'en connaît au début. Et dans ce casting, On a aussi Gilles Lelouch qui devient comme tout d'un coup là avec le grand bain, il lui arrive de très 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 belles choses, ça devient aussi une sorte de grande valeur montante qui est une sorte de parrain, on a la sensation aussi dans le film, parce que c'est ce personnage qui est capable de faire ce mouvement, de ce pas de côté et de pas rester figé sur sa vision de la banlieue. C'est important qu'il participe à ce projet. Il est là depuis le départ.
Non, en fait au départ j'ai vraiment écrit le film autour de Malik ouais. Bentala, parce que moi je trouve qu'il a vraiment un talent comique incroyable, c'est une espèce de Pierre Richard 2.0.
Maître
quoi.
Chien qui a peur des chiens,
un grand sensible, un grand maladroit, un grand loser, oui. Un grand timide. Et effectivement, c'est autour de lui avant tout que j'ai construit le film. Et puis après, c'est vrai que je suis allé chercher des acteurs avec qui j'avais envie de travailler. Ouais. Donc il y a eu Gilles, bien sûr, qui a accepté ce rôle. Il y a eu Sabrina, il y a eu Karim Belkadra, un certain nombre d'autres acteurs avec qui j'avais envie de tourner depuis un certain temps. Et c'était un vrai plaisir de les avoir. Effectivement, Gilles, au moment où on tournait, n'avait pas encore sorti le grand bain, ouais. Ni Pupille, mais il était en plein travail de voilà, il était en post-production et on a beaucoup parlé de ça ensemble au moment du tournage, quoi.
Avec un très beau casting, Malik Bentala, Camille Lou, Anne-Elisabeth Blateau, Loïc Legendre, Hugo Becker, Annabelle Legrone, Grégoire Plantade, Jeanne Bourneau, Nassim Siamed, Karim Belkadra. On va revenir sur certaines scènes qui vont devenir cultes, hein, notamment les scènes d'entretien d'embauche, je pense, parce que il y a une autre obligation. Non seulement il faut déplacer la société en zone franche, mais en plus il va falloir recruter, parce que dans le personnel il va falloir compter un certain nombre de pourcentages de personnes qui viennent du cru, et là quand il faut recruter, généralement ça donne lieu à des scènes, mais bref, ça sera une scène d'anthologie, j'en suis sûr.
Jusqu'ici tout va bien, un film très très drôle, on l'a dit, et qui a du fond. Alors cher Jean-Jacques Lang, oui. Vous savez pourquoi Jusqu'ici tout va bien de Mohamed Hamidi avec Sabrina Ouazzani va avoir du succès, vous le savez.
Écoutez, très cher Daniel, à vous écouter avec la plus grande des attentions, comme je le fait depuis le début de la semaine, que constate-je?
Je vous en prie, constatez.
Constatez. Eh bien, Daniel chéri, je constate qu'à défaut d'avoir eu la peau de Nagui, vous entrez dans la sienne. Et je dois dire que le mimétisme à ce point poussé relève de l'identification masochiste, de l'envie de choper la ch'touille, ou plutôt relève du syndrome de Stockholm qui pousse une victime, vous le savez, à s'enticher de son tortionnaire. Mais je ne suis pas ici pour procéder sur vous à une coloscopie ni à une psychothérapie dont je crains qu'elle ne déchaîne plutôt qu'elle ne la calme, la bête qui sommeille en vous.
Bon, dites-nous pourquoi ce film va avoir du succès. Allez-y.
Cher Daniel, vous devriez consulter un ORL plutôt qu'un psychiatre, car Leïla Kaddour a expliqué plus synthétiquement encore que ne l'aurait fait Nagui qu'en ce qui concerne la banlieue et les Tessis, ce film formidable de Mohamed Hamidi, où excelle l'excellente Sabrina Ouazzani. Bonjour mademoiselle. Aujourd'hui on doit dire madame quand on est progressiste. Leïla a expliqué que ce film va à l'encontre des a priori ahuris, des partis pris pourris, menterie, ânerie, gausserie, connerie, saloperie, oui, des tas de trucs en riz, mais aussi en ni, en si et en bi, à vanille.
Et si, poursuivez, s'il vous plaît, poursuivez, le temps passe.
Bon, vous pourriez m'appeler Gigi, ça ferait une rime en de plus. Gigi. Mais je poursuis. Oui. J'ai une dette culturelle considérable envers la banlieue, qui nous a fait découvrir à mon cousin Jacques, ancien ministre, et à moi-même, le peura, le slam, les battles, le breakdance, le hip-hop, trip-hop, hula-hop, le yop, mais aussi le street art, tag, graph, throw-up, et ce n'est pas tout.
Oui, nous sommes tout oui.
Alors, la banlieue, je vous remercie, la banlieue m'a surtout fait découvrir l'art capillaire qui décoiffe. Alors, je sais que ce que je viens de dire est presque une tautologie, dont je précise pour vous, Daniel, qu'il ne s'agit pas d'une anthologie des histoires de Toto, mais d'une figure répétitive. Donc, dès ce soir, avant de me rendre au banana, comme tous les jours, chez Zouzou Coiffure, renonçant à mon habituelle coupe dégradée rajeunissante, avec balayage et pigmentation des racines au brun noir, effet corbeau, je demanderai à Jean Patou, mon capilliculteur paysagiste, de tenter sur ma teutée une crête crazy color, vert fluo à la Pogba. Ceci dit, j'hésite aussi entre un lissage brésilien à la kératine liquide et une pose de dreadlocks en extension qui me redonnerait du volume et de la jeunesse. En attendant, vive la banlieue, bonne émission.
Merci Jean-Jacques Lang, merci Gigi.
France Inter.
De rien.
La bande originale.
Jean-Jacques Lang, jusqu'ici tout va bien pour l'instant avec ce film de Mohamed Hamidi avec Sabrina Ouazani. Je parlais de cette scène de recrutement parce qu'il 30% des effectifs pour bien cadrer avec la loi doivent être recrutés sur place pour bénéficier encore de ce dispositif. C'est une sorte de paradis fiscal à la banlieue, en tout cas dans ce cadre-là.
Exactement.
Et cette scène, elle est non seulement elle est drôle, mais surtout ça permet de faire une sorte de typologie aussi de la population qui vit en banlieue. Donc là, il y a plusieurs catégories, Mohamed Hamidi.
C'est vrai que cette scène a été assez intéressante en plus à tourner. Sabrina peut en témoigner, on a beaucoup ri en la tournant parce qu'on a quasiment ouvert les micros. Et c'est vrai qu'on avait un certain nombre de personnes qui étaient castées, forcément, pour lesquelles on avait écrit des choses. Mm-hmm. Mais on a fait tourner comme ça un certain nombre de gens, y compris des figurants, toute la journée. Ce qui était intéressant pour moi, c'était effectivement de passer en revue comme ça, en 4 minutes. La scène dure 4 minutes, ouais. Je pense que j'aurais pu en monter 10 hein, parce qu'elle était vraiment marrante. Je garde le reste pour je ne sais pas quoi,
pour un autre film ou pour les DVD, bonus. DVD.
Passe en revue des gens, à la fois des gens surdiplômés qui ne trouvent pas de boulot, comme Mariama.
Ça, c'est Mariama, c'est-à-dire qu'elle a un bac plus 5, elle bosse au McDo.
Parce qu'elle est noire et parce qu'elle habite en banlieue, elle a un prénom qui sonne africain. Ça, c'est une réalité.
Moi,
je l'ai connue souvent, notamment quand j'étais prof, j'avais du mal à placer mes élèves. Il y avait la maman qui venait avec son bébé qui n'est plus dans le film là. Il y a le petit jeune qui a peur de rien et qui essaie de se placer et qui n'arrive pas à en placer une. Il y a le barbu qui vient pour voir si tout est correct et s'il peut envoyer sa femme bosser dans l'entreprise.
C'est sa femme qui devait passer l'entretien d'embauche.
Il vient à la place de sa femme en éclaireur. Et ça, effectivement, ça m'a été inspiré par des situations, par exemple, chez des médecins.
Surtout quand on la rappellera, qui vas-tu rappeler, tu n'as pas son numéro de téléphone.
Exactement, tu ne rappelles pas ma femme.
Chez des médecins, vous disiez.
Ouais, parce qu'effectivement, on m'a raconté quelques cas comme ça où effectivement le mari venait avant voir le médecin pour savoir s'il pouvait envoyer sa femme en consultation.
Se faire ausculter.
Voilà, donc c'est ce genre de travers et qui me font rire moi et que je trouve dramatique sur le fond, mais en tout cas sur desquels on peut rire.
Il y a le caïd aussi, parce que dans le recrutement que fait Gilles Lellouche pour son entreprise, il va bien entendu recruter Malik Bentala parce que c'est son premier contact, on va dire, avec la banlieue, ce maître chien qui a peur des chiens qui se réfugie dans sa voiture, ce qui quand même donne déjà le ton de ce film et de ce personnage.
Mais Pierre Richard, c'est tout à fait ça.
Oui,
c'est tout
Malik
à fait Pierre Richard. Avec un fond exacerbé de romantisme qu'on va découvrir aussi dans le film.
Il y a Mariama, la surdiplômée, il y a aussi le caïd dont on est obligé d'accepter la candidature parce que sinon on a peur que de toute façon l'entreprise va brûler dès le lendemain
Exactement,
matin.
Exactement, c'est ça. C'est ça, effectivement, c'est vrai que c'est pour ça que je parle pas de clichés et plus de préjugés et je trouve qu'il y a suffisamment de personnalités différentes dans le film pour montrer la diversité des gens qui habitent dans les quartiers. Malgré tout, on peut voir que 95% des gens essaient de jouer le jeu de la société. Et puis effectivement, ce petit caïd là qui s'appelle Sadek dans le film, qui est joué par Nassim Ait Ahmed, c'est vrai qu'il a juste envie de rentrer dans la boîte pour foutre le bordel quoi en fait. Et il est très menaçant, Gilles est obligé de le prendre et effectivement Leïla face à Sabrina et Sami Malik disent non, faut pas le prendre, ça va pas le faire. Effectivement, ça le fait pas parce que les problèmes vont arriver par lui.
Des problèmes, ça arrive souvent par lui également. Je vous demande d'accueillir le flamboyant Alexis Lerossi. Alexis, j'ai entendu dire que vous aviez lu de la philosophie.
Oui, monsieur. En effet, j'ai lu de la philosophie le week-end dernier. J'ai lu de la philosophie pendant des heures parce que j'en ai un peu marre de rien comprendre ou de passer pour un imbécile quand, en pleine conversation, quelqu'un me dit « Non, mais même si d'un point de vue stoïcien, ce que tu dis est vrai, tu peux pas raisonner comme ça. »
Ah non, tu peux pas, non.
Quand quelqu'un dit ça, j'ai l'impression qu'il sort un flingue et qu'il me dit « Now you shut up, son of a bitch !» Alors je réponds « Ouais, ouais, vu comme ça, t'as peut-être pas tort. Tu veux une bière ?» Parce que c'est la seule façon un peu digne de clore la conversation. Je vais pas lui dire, excuse-moi, j'ai pas compris l'histoire de stoïcien qui donne son point de vue là. Donc en façade, ça va, je fais bonne figure, mais en réalité, je suis KO. Mon cerveau saigne du nez. Ce qui m'énerve, c'est que de la philo, j'en ai fait au lycée et j'aimais bien ça, mais j'ai pas retenu.
Oui, moi aussi.
Et à l'inverse, en ce moment, il y a la rediffusion des championnats du monde de pétanque 2018 sur l'équipe TV et je retiens tous les résultats. Alors je me fous de savoir qui est champion du monde de pétanque. Franchement, je sais même pas pourquoi je regarde. On est tous dotés d'une mémoire sélective, une mémoire qui trie les informations qu'elle reçoit. Sauf que j'ai l'impression que la mienne, elle trie comme un Polonais en camping, tu vois. Elle regarde à peine et elle dit « Jutujeska nie oprojninasto ». Ce qui veut dire « Vas-y, jette, on s'en fout ». J'ai pris l'exemple des Polonais parce qu'ils sont 48e au classement mondial du tri sélectif. Mais j'aurais pu faire la même chose avec les Macédoniens qui sont à peu près aussi mal classés. C'est juste que je prononce un peu mal le Macédonien.
Par contre, le Polonais, c'est impeccable.
Oui.
Ah oui, bravo.
Bref, c'est triste d'oublier les choses que tu lis et que tu voudrais retenir. Et là encore, j'ai pas retenu grand-chose à mes lectures philosophiques. Mais je me suis posé une question de type existentialiste. Je me suis dit, est-ce que le comportement des hommes pendant leur passage sur Terre n'est pas biaisé par le fait qu'on ne sache pas vraiment ce qui se passe une fois qu'on est mort?
Très bonne question.
Vous voyez ce que je veux dire? Parce que concrètement, beaucoup de gens ont des croyances, mais personne ne peut affirmer comment ça se passe vraiment. Si on avait la certitude que le paradis existe, et si l'accès au paradis était conditionné par nos actions sur Terre, avec une grille de lecture claire qui nous permet de nous positionner en temps réel, peut-être qu'on serait tous un peu meilleurs. Et puis le paradis, on sait même pas à quoi ça ressemble. Si t'écoutes les Corses ou les Bretons, le paradis, ça ressemble à la Corse ou à la Bretagne. Mais si t'écoutes un réfugié qui fuit la guerre, Nevers dans la Nièvre, c'est le paradis. Dans le même registre, on peut trouver que Daniel Morin porte de jolies chemises, ouais. Si on n'en possède pas soi-même.
C'est vrai.
Je le déteste.
Donc tout est relatif, comme disait Einstein. Einstein. Bon, lui, c'était pas un philosophe à proprement parler, mais Einstein, c'est un peu comme Bernard Tapie et Léonard de Vinci, tu vois. À part mannequin grande taille, il a tout fait, quoi. Et on n'a pas non plus les conditions d'entrée au paradis. Moi, j'ai toujours été partagé entre les paroles de l'Évangile et celles de Michel Polnareff. D'un côté, on me disait qu'il fallait faire de bonnes actions sur Terre pour s'assurer une bonne place là-haut. De l'autre, on me disait, t'en fais pas, on ira tous au paradis, tu vois. Donc le message, c'était profite, mange, bois et roule au fioul, on t'en voudra pas, quoi. On sait pas non plus si l'enfer existe. Et si c'est si horrible que ça, parce que on le prend à la légère, comme la case prison au Monopoly. Parce qu'on sait pas ce qui se passe dans la prison du Monopoly. Donc on s'en fout, on attend de tour et c'est bon. Personne n'a jamais réagi en disant non, s'il vous plaît, pas la prison. À mon avis, un type qui a vraiment fait de la prison, il peut plus jouer au Monopoly. Donc après ça, j'ai eu mal à la tête, puis j'ai arrêté de penser. Quoi.
Oui.
Mais voilà, j'ai lu de la philosophie.
Je suis perdu.
J'ai pas retenu grand chose, mais je me suis posé des questions. Et je crois que c'est aussi ça, philosopher. Allez, bonne journée, messieurs. Ouais,
Alexis Laurent Signol.
Quel le talent.
Ah
non. Sur France Inter.
Alexis Laurent Signol, que vous pouvez retrouver tous les dimanches à 17h30, tout ça, au point virgule.
Et nous, vous pouvez aller au cinéma à partir de demain pour voir jusqu'ici tout va bien. Ce nouveau long métrage de Mohamed Hamidi avec Sabrina Ouazani, avec Malik Bentala, Gilles Lelouch notamment. On va parcourir ensemble quelques années de vos vies pour faire plus ample connaissance, notamment avec vous, Mohamed, pour cette première dans la bande originale.
Et on commence dans le... Au début des années 2000, on commence avec Mohamed. Ben, si vous voulez, hein. On y va avec Mohamed. Non, on y va. Ah, on me fait signe. Ils sont menaçants devant moi. On va commencer par vous, Sabrina.
Bien
sinon, je vais m'en prendre.
Bien sûr, surtout vous.
À force de vivre.
Bien sûr.
Début des années 2000, Sabrina Ouazani. Ouais. Vous avez 13 ans quand. Premier casting.
Ouais, pour c'est... l'esquive d'Avdel Hatif Kechiche.
Et c'est maman qui le trouve.
Et c'est maman qui le trouve à l'arrêt du
travail. Même pas au courant.
La mère était bien sa maison.
Ah oui. C'était le minimum. Ouais. Et ouais, Wallen, cette grande chanteuse, grande femme, qui a vraiment bercé toute ma jeunesse, accompagné mes premiers amours aussi, et mes premiers déboires amoureux. Wallen.
Wallen. Et on vous retrouve au casting de l'esquive d'Avdel Hatif Kechiche.
Oui.
Vous avez été choisie pour le rôle de Frida. C'est vraiment un tournant tout d'un coup dans votre vie parce que ça se déclenche comme ça.
Ça se déclenche comme ça. Il y avait vraiment, j'étais rien qui me prédestinait à devenir actrice. C'était vraiment comme une occupation. Même quand elle a trouvé l'affiche, elle s'est dit bon, voilà, on va partir en vacances, ça va l'occuper une journée, elle et son frère. Est-ce que ça te dit? C'était une activité. Après, c'est vrai que quand je me suis retrouvée devant la caméra et qu'on m'a dit première action et que j'ai commencé à jouer. J'ai découvert une sensation, une liberté, quelque chose de particulier que j'ai aimé, que j'ai pas tout de suite voulu avouer, exprimer, parce que je me suis dit bon ben on va sûrement jamais me rappeler. Donc
je veux être actrice, c'était impossible à ce moment-là de le formaliser comme ça.
Impossible, pas pour mes parents parce qu'ils sont très ouverts et depuis toujours ils me disent il faut que tu fasses ce que tu aimes, mais juste parce que j'avais peur d'être trop déçue, de tomber de haut. J'avais pas envie d'espérer pour ensuite être déçue.
Et l'espoir finalement, vous avez bien fait de l'entretenir, parce que le film sort en 2004 et en 2005. qui se voit nommée au César du meilleur espoir féminin pour son rôle dans Les Skiffs. C'est vous.
C'est Bibi.
C'est vous. Et là, tout d'un coup, c'est Cannes, c'est le tapis rouge.
C'est César, effectivement, le tapis rouge. Incroyable, je savais pas où j'étais, je comprenais pas. Dior qui m'habille, j'avais l'impression d'être une princesse. J'hallucinais et pareil, à ce moment-là, je me disais pas ouais. Je peux l'avoir. J'étais ravie que Sarah Forestier l'ait eu, vraiment, réellement, sincèrement, parce qu'à aucun moment je me suis dit que ça pouvait être moi.
Quatre donc récompenses
juste d'être
pour le
là,
film.
C'était fou.
Ouais. C'était vraiment un moment, j'imagine.
Incroyable, et ma maman qui était avec moi.
Vous avez partagé ça en famille, j'allais
bien
demander.
Évidemment,
vous avez...
avec ma maman qui était là, et qui m'a accompagnée, qui m'a soutenue. Je lui ai présenté Will Smith quand même pour
rééquilibrer. Ouais, c'est bien.
Qui était là,
celle-là est
là. Elle l'a pas chopé, elle préfère mon père. Surtout.
Attention à ce que tu dis, Alexandre.
Attention, il peut débarquer chez France Inter. Papa, je t'aime, maman, je vous aime.
Oui. Will Smith, c'est une maison, elle est gâtée hein, quand même. Gâtée, et vous, à la même époque, Mohamed Hamidi, vous écoutez.
Oh. Amy Winehouse qui fait partie de la bande son du film.
C'est vrai. Non, mais c'est moi j'aime beaucoup la soul, la musique des années 70-80. Il y a quelques artistes comme ça qui de temps en temps nous rappellent ce bon souvenir. Et Amy Winehouse c'était une très très grande artiste qui est arrivée à ce moment-là dans les années 2005-2006 avec notamment son album Back to Black.
Ouais.
Et je trouve que c'était une voix formidable, un flow formidable, alors qu'elle a eu une vie dramatique malheureusement et qui est partie très jeune, hein, à 27 ans. Mais je pense que voilà, il y a de temps en temps des artistes comme ça qui nous rappellent que la musique, ça peut être très profond.
Et début des années 2000 même, c'est la création du Bondy Blog, dont vous êtes le cofondateur.
En fait, c'est 2005, exactement.
2005,
ouais, au moment des révoltes de 2005, des journalistes suisses viennent à Bondy et nous disent effectivement, voilà, on veut s'installer là dans la durée, créer un blog pour donner la parole aux habitants. Et je tombe sur eux à Bondy, parce que c'est là-bas que j'habite. Et je les aide à s'installer et on crée ce blog et qui existe toujours encore 13 ans après.
Ouais, et puis au-delà de l'existence même du blog, c'est aussi la formation de jeunes journalistes qui ensuite ont intégré d'autres rédactions. Et c'est aussi une façon de dire comment on parle, pas que de la banlieue, mais comment on parle de la France d'aujourd'hui on est tous issus du même milieu social.
Exactement. L'idée, c'est de donner un peu... tout à l'heure, Sabrina parlait de cette autocensure, c'est-à-dire sa difficulté à se projeter comme comédienne. Je pense qu'il y a aussi des jeunes qui ont des difficultés à se projeter comme journalistes.
Ouais.
Et effectivement, on les a aidés à casser un peu ce plafond de verre là, et à avoir des ambitions dans ces métiers-là.
Et le Bondy Blog continue, marche
bien
toujours,
sûr.
Il y a une émission de télé, enfin, c'est quand même un très beau succès.
C'est vrai que ça continue avec l'énergie. Aujourd'hui, il y a encore deux nouveaux directeurs. Ça a été tenu par des gens successivement depuis 2005. Et moi, je suis toujours au conseil d'administration. Je vais chaque année réélire les nouveaux dirigeants. Je suis très heureux de le faire. Et je suis très souvent ce qu'ils font. Et je suis très fier de ça.
Fin des années 2000, Sabrina Ouazani, pour vous, c'est...
On va choisir.
Il y a battle, là.
Franchement.
Laurie Neal.
Ah, Laurie Neal, que j'ai vu en concert il y a pas longtemps.
Vous avez attendu beaucoup.
Mais non, j'ai eu de la chance.
C'est le jour 2.
J'ai eu de la chance. J'étais jour 2.
Jour 2. Ouais,
donc j'ai pas trop attendu. Elle a été exceptionnelle.
Fallait pas y aller le premier soir.
Bah ouais, désolé.
C'était un peu déceptif. Vous, Sabrina, on vous retrouve à l'affiche à la fin des années 2000 de plusieurs films. Kechiche, Clapiche,
ouais.
Beauvoir,
ouais.
La Graine et le Mulet qui a été un choc aussi. Paris, donc de Clapiche, Des Hommes et des Dieux. Sortent tout d'un coup, là aussi, la filmographie commence à prendre et c'est à chaque fois des grands réalisateurs.
Ouais, effectivement, j'ai eu cette chance de rencontrer ces merveilleuses personnes qui ont cru en moi et qui croyaient en moi plus que moi-même. Je croyais en moi-même, en fait, finalement. C'était ma première montée des marches à Cannes, justement,
voilà,
pour,
avec Lambert
pour
Wilson.
Le film d'Xavier
et vous parlez de la grande bienveillance de Lambert Wilson.
Ben ouais.
Qui sera notre invité demain.
Vraiment. Non, ça a été toujours quelqu'un qui m'a, même quand on était sur le tournage au Maroc, où j'étais entourée de ces moines tibétains, qui étaient bien évidemment des acteurs, mais j'étais un peu la seule fille et ils ont vachement pris soin de moi. Lambert m'a pris sous son aile et puis à Cannes, ensuite au César, je l'ai accompagné pour sa nomination et voilà, ouais.
Sabrina parle de chance, tout d'un coup de rencontre. Vous, Mohamed Hamidi, il la connaissait, vous l'avez fait travailler. À chaque fois dans les interviews, un mot qui ressort toujours de Sabrina, c'est cette sorte d'enthousiasme, ce côté solaire. On a envie de bosser avec elle, en fait.
Bah, d'ailleurs, si bien que j'ai fait donc ce film avec avec Sabrina qui s'appelle Jusqu'ici tout va bien, et c'est tellement et ça a tellement été effectivement un bon moment que elle a été dans mon film suivant
qui s'appelle Les Fouteuses.
Et effectivement, j'ai pris la carte Sabrina Wazani.
C'est moi qui ai pris la carte.
Non, c'est vrai que c'est un vrai plaisir parce qu'elle est à la fois hyper pro. Ouais. Et c'est un vrai aussi, c'est un rayon de soleil sur le plateau, et elle est d'une humeur constante.
C'est une force qui va, hein,
et,
on le sent.
Et elle embarque tout le monde avec elle. Et ça, c'est super.
Vous à la même période, Mohamed Hamidi.
Ouais, grosse battle, hein.
Ouais, franchement, on est bon quand même.
Alicia Keys, pour illustrer cette rencontre avec Jamel Debbouze en 2008, c'est ça?
Exactement, ouais.
Ils cherchent quoi, des auteurs?
Effectivement, moi j'avais écrit Né quelque part, ce qui allait devenir mon premier film. Ils cherchaient des auteurs, ils cherchaient des... je suis devenu finalement le directeur artistique et son metteur en scène. Et effectivement, ce morceau, c'est le morceau qu'on a choisi pour le final de son spectacle qui s'appelait Tout sur Jamel.
Et, comment vous êtes rencontrés?
Et ben, en fait, il a lu, il cherchait des gens, il a lu Né quelque part, il a trouvé ça intéressant. On s'est vu, à l'époque, moi j'étais entre auteurs, journalistes et profs, hein, et il m'a dit j'ai besoin de gens comme toi. Je lui ai dit ouais, mais tu sais, je fais pas mal d'autres choses à côté. Il m'a dit écoute, viens petit à petit, faisons connaissance. On a fait connaissance, et depuis on s'est pas lâché. Donc ça fait 12 ans que ça dure.
Aussi. C'est un petit réseau, vous connaissiez Kader Aoun, qui était un copain de lycée, je crois.
Alors Kader Aoun, en fait, on était au lycée ensemble il y a très longtemps, mais je connaissais surtout mon frère, qui s'appelle Ahmed Hamidi.
C'est bien ça,
qui est auteur au Guignol.
Et qui était auteur au Guignol depuis 98, à qui il arrivait une histoire formidable, qui était serveur dans un café et qui était remarqué par les gens de Canal. Et notamment par Bruno Gassio, qui bossait en fait dans un bar à eau assez branché qui s'appelait chez Colette. Il était serveur là-bas et Gassio un jour lui a dit « Est-ce que tu veux pas venir écrire des vannes pour nous ?» Pour Canal, à l'époque, il y avait Canal Plus ID. Et c'est comme ça qu'il est rentré dans ce milieu et qu'il nous a permis d'y arriver aussi.
Et à cette époque-là, vous étiez encore enseignant, vous étiez un peu prof à mi-temps.
Exactement.
À un moment, vous avez dû arrêter, vous avez dû lâcher.
Bah après, j'ai eu des jumeaux, là, il a fallu que je fasse un choix, là, parce que j'ai pu me couper en deux, en trois, mais en six, c'était plus possible. Non, c'est vrai qu'au bout d'un moment, j'ai complètement lâché l'enseignement. Mais j'y retournerai un jour, je pense. Je pense.
Sous une autre forme,
ouais, je pense que j'enseignerai le cinéma, ou l'écriture, ou la mise en scène, je sais pas. Mais en tout cas, le côté transmission me manque un peu parfois.
Et c'est pas avec ça qu'on va relancer le pays.
Et en 2013, Sabrina, vous écoutez.
Formidable.
Yes.
Formidable.
C'est ce que t'as choisi, non,
tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables.
Stromae avec Formidable.
Ah oui.
Et Formidable aussi, c'est tout d'un coup d'ajouter à sa filmographie Asghar Farhadi.
Ah ouais.
Pour le passé.
Ah, c'était dingue ça. Ça, c'est vrai, c'est extraordinaire, c'est vrai.
Vous connaissiez hyper bien son cinéma, en plus, j'ai cru
ça. Bien évidemment, j'étais une grande, grande fan, enfin, je le suis toujours d'ailleurs, et effectivement, j'apprends qu'il prépare son prochain film avec Bérénice Bejo et Tahar Rahim, un film en France, à Paris, donc je le glisse à mon agent, et puis voilà, on fait notre petite recherche, et puis on nous dit, non, Asghar cherche une actrice pas confirmée, enfin, qui n'a jamais rien fait, et j'étais là, ah bon, t'es sûr? Redemande, comme ça, et puis il y avait mon nom qui revenait comme ça de temps en temps. Puis un jour, effectivement, je reçois un appel. Je devais partir en vacances le surlendemain. Bien évidemment, j'ai tout annulé. J'ai sauté sur l'occasion. On s'est rencontrés. Je lui ai envoyé un film franco-canadien qui s'appelle Inch'Allah, dans lequel j'avais tourné et qui était où je jouais une palestinienne et donc aussi une langue qu'il connaissait. Donc c'était peut-être plus simple pour lui aussi de me voir jouer comme ça. Et donc il m'a aimé dedans et il m'a proposé ce rôle. Ouais.
Et on vous retrouve aussi à cette époque-là sur scène dans Amour sur place ou à emporter.
Ouais.
Ça aussi, c'est une expérience différente tout d'un coup.
Différente, et puis c'était aussi une de mes premières fois où je me permettais d'être drôle.
Ouais. D'assumer ça, en
d'assumer tout cas. Ça, effectivement. Et puis la scène, le théâtre du gymnase, porté par les textes de Noum Diawara et Amel Chabi, ça a été. J'avais vu cette pièce en tant que spectatrice, j'étais contente de reprendre ce rôle réellement. Et puis, je me suis éclatée, je me suis lâchée, j'ai trouvé cette liberté et puis effectivement d'assumer de pouvoir éventuellement parfois être drôle et de me diriger un peu vers la comédie et puis d'assumer aussi que c'est quelque chose qui me plaît.
C'est dur d'assumer d'être drôle parce qu'au naturel, on vous voit, vous êtes êtes vive, virevoltante et vous êtes marrante. Mais ça veut dire quoi? On a peur d'amener une image, se non. dire c'est trop tout d'un bah. Coup à accepter pour un réalisateur ou un metteur
non,
en scène.
Non, c'est-à-dire qu'en France, on va pas se mentir, et puis dans plein d'autres pays aussi, mais on a tendance à nous mettre dans des cases. Mmh. Moi, en 2002, quand j'ai tourné L'Esquive, et puis en 2004 ensuite, quand il est sorti, ça a été assez difficile de sortir de cette case maghrébine banlieusarde.
Bien sûr, ouais.
Et en plus, avec ce rôle de Frida, qui a une assez grande bouche, voilà, et un grand caractère. Et effectivement, sortir de cette case-là, de ce rôle-là, c'était difficile. C'est passé par de nombreux refus, et puis par faire certains choix, peut-être faire des plus petits rôles, avec mais des rôles qui surprenaient peut-être un peu plus, on va dire, en tout cas différents de ce que j'avais fait. Et pour la comédie, c'est pareil. On avait tellement l'habitude de me voir dans des films un peu d'auteur, plutôt dramatiques, qu'on ne me voyait pas sur ça. Et on m'a découvert finalement un peu aussi grâce à la scène et à Amour sur place ont emporté, et les professionnels qui sont venus me voir.
Et à cette époque-là, Mohamed Hamidi, le choix tellement cool.
C'est un lover.
Ce que vous dites, vous ne savez pas ce que vous dites.
Vous n'avez pas assez des choses à vous dire.
Vous parlez pas anglais.
En fait, Malik Bentala, c'est un peu vous, quoi. C'est ce petit côté, la musique d'ambiance.
Non, mais moi, franchement, Marvin Gaye, parce que j'écoute Marvin Gaye tous les jours, je crois, depuis plus de 30 ans. Non, parce que pour moi, c'est le plus grand musicien qu'on ait jamais eu. Enfin, c'est mon avis, avec Steve Wonder, peut-être. Je parle de la musique moderne. Et effectivement, j'aurais bien aimé le mettre dans la bande originale de Jusqu'ici tout va bien, mais il n'y avait pas la scène qui s'y prêtait.
Non, mais il y a de belles choses encore.
Franchement, pour moi, c'est un artiste incroyable. Incroyable, qui en plus a eu une vie incroyable, qui est mort assez jeune, on sait, dans des conditions dramatiques, était tué par son père, mais qui a une carrière formidable, quoi. Et c'est une très grande voix.
Et 2013, c'est la sortie de votre premier film, Né quelque part, avec Toufik Jalab et Jamel Debbouze, qui raconte l'histoire d'un jeune Français qui doit se rendre en Algérie pour régler des problèmes de papier. Voilà. C'est un film qui est inspiré de votre vie.
C'est vrai, à ce moment-là, c'est un film que j'ai écrit autour de 2005-2006, et c'est des moments où j'ai dû moi aussi me déplacer en Algérie, parce qu'effectivement, mes parents vieillissant, j'ai dû aller régler un certain nombre de choses, et j'ai redécouvert à ce moment-là le pays d'où venaient mes parents, que je connaissais très peu, voire dire pas du tout. J'ai creusé un peu sur ma propre identité, et ça m'a inspiré cette histoire, et effectivement j'étais très heureux de la porter à l'écran avec Toufik Jalab et Jamel Debbouze.
Et nous a rejoint Saïd Amouche. Bonjour Saïd, vous venez de Bondy, vous aussi, vous êtes fondateur et dirigeant du cabinet de recrutement Mosaïque RH, qui met en lien recruteurs et jeunes diplômés issus de quartiers défavorisés. Aujourd'hui, Mosaïque RH, faut le préciser, c'est 42 salariés permanents répartis sur 5 antennes en Île-de-France et en région. Forcément, dans Jusqu'ici tout va bien, il faut respecter les règles de l'État pour bénéficier des exonérations fiscales, à savoir recruter 30% au moins du personnel de l'entreprise menée par Gilles Lelouch sur place, en zone franche. On vous fait venir justement pour savoir comment est-ce que vraiment ce type de gruge a vraiment lieu. Vous en avez été témoin.
Alors témoin non directement. En revanche, évidemment, c'est une petite musique qu'on connaît tous. Mais le plus intéressant, en fait, c'est que c'est d'abord un prétexte pour pouvoir mettre à plat, en fait, un vrai sujet, qui sont les discriminations à l'emploi, qui sont l'inégalité face, en fait, à un processus de recrutement. Il n'y a pas véritablement d'égalité de traitement dans un processus, et donc du coup,
ça règle pas le problème, en fait.
C'est l'idée de parler de ce sujet-là et d'en parler avec un peu de distance, et faire en sorte justement de pousser les uns et les autres à réfléchir.
Ouais.
Et je trouve que c'est un super film, et j'encourage tout le monde à aller voir.
En fait, ça règle pas le problème. C'est des sortes de petites mesures de rattrapage.
C'est comme la discrimination positive.
Ça, ça vient pas. Comme ça. Temporairement faire des signes, c'est chic de porter en bandoulière le côté on est ouvert, mais en fait, est-ce que concrètement ça règle des problématiques?
En fait, dans le fond, il y a quand même une hypothèse qui est intéressante. C'est une mesure fiscale qui a pour vocation, en fait, de pousser des entrepreneurs, des recruteurs à rencontrer des populations qui d'ordinaire ne sont pas dans les processus traditionnels.
Ils sont pas reçus.
Et donc, que dit le film? C'est ça que je trouve intéressant, moi, dans le film, c'est que c'est vraiment un remède contre le pessimisme, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va au-delà de ses préjugés, et en rencontrant l'autre, en se forçant à rencontrer l'autre par une mesure fiscale, c'est une possibilité comme une autre, eh bien ça permet de déconstruire un certain nombre de préjugés et d'aller au-delà finalement de l'idée reçue, et de se rendre compte que la personne en face, eh bien, c'est peut-être quelqu'un d'extrêmement compétent, quelqu'un qui est source de richesse, quelqu'un qui est source de créativité. Et c'est aussi comme ça qu'on crée, en fait, de la valeur dans l'entreprise.
Vous, Saïd Amouche, comment vous œuvrez concrètement sur le terrain avec Mosaïque RH? C'est quoi le principe? Comment ça marche?
Alors, nous, on a eu, en fait, un malin plaisir de s'intéresser à cette question de discrimination à l'emploi. Et l'hypothèse qu'on a posée, c'est que il y a en réalité une grande majorité de populations invisibles qui sont des gens qui ont envie de réussir, qui n'ont pas d'autre choix de toute façon que d'être dans des solutions d'émancipation et notamment économiques. Et donc une fois qu'on sait ça, il faut les mettre en perspective. Et donc on s'est dit, il y a deux leviers sur lesquels il faut travailler. C'est vraiment une démarche globale. La première, c'est que il faut être un peu dans la revendication et le plaidoyer. Donc on a créé une fondation qui a pour vocation d'engager ces discussions, d'engager ces sujets-là, de soutenir ce type de démarche. Et puis en simultané, on a créé un cabinet de recrutement qui a pour vocation de présenter ses talents à des recruteurs sur la base des compétences. Il faut savoir qu'à compétences égales, c'est 4 à 5 fois moins de chances pour un candidat qui réside dans ces quartiers populaires. Donc il y a une vraie injustice sociale qui fait qu'à un moment donné, non seulement on se met à la marge d'une population qui peut créer de la richesse, mais on tue quand on considère que la France en fait n'est pas capable de générer en fait plus de croissance. Eh bien, c'est peut-être parce qu'elle n'est pas capable d'inclure ses talents.
Vous qui êtes au contact des entreprises, parce que vous facilitez justement les rencontres, est-ce que les entreprises ont encore peur de la banlieue? Dans le film, on voit Gilles Lelouch dit tout de suite, mes clients ne me suivront jamais à la Courneuve.
Oui, en fait,
on est tous
portés malheureusement par nos préjugés. On a tous des préjugés qui sont alimentés par les informations dont on est alimenté au quotidien. Et je pense que le point sur lequel il faut progresser, c'est comment on arrive à contrôler ce préjugé. Le préjugé alimente un stéréotype qui lui-même génère le fait discriminatoire. Oui. Et donc la grande différence entre lorsqu'on traite du racisme ou qu'on traite en fait du préjugé, c'est que le préjugé, il suffit simplement d'être conscient en fait de l'attitude dans laquelle on est, puisqu'on est tous victimes de son propre préjugé, et de pouvoir ensuite être en situation de sortie par rapport à ça, en étant dans une expérience vécue. Mmh. Et donc en se confrontant avec des populations qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer, forcément on progresse. Oui. Et c'est un peu l'image principale en fait que je retiens de ce film. Finalement, ce film en fait devrait être reconnu d'intérêt général. C'est-à-dire que si demain on a besoin en fait de sortir de ce climat ambiant, parce que on est une France qui évolue avec sa richesse, ses différences, ce multiculturalisme, et si on reste chacun en fait dans notre monde, dans une situation de fermeture, on n'arrivera pas à créer en fait cette richesse qui est la France, tout simplement.
Ce qu'on ne connaît pas peut nous faire peur, et justement, jusqu'ici tout va bien, cette vision-là de dire, voilà, faisons en sorte qu'on se retrouve, Fred.
Et au-delà de la discrimination, parce que c'est vrai que ça joue, mais il y a aussi un point dont on parle assez peu avec la banlieue, qui est les territoires enclavés, c'est-à-dire c'est les transports. C'est un truc dont on parle assez rarement, mais quand tu es en banlieue, il faut avoir aussi la possibilité de pouvoir circuler entre les villes limitrophes, et ça, c'est super compliqué.
C'est une seconde illustration en fait de cette mécanique de discrimination. Effectivement, il y a évidemment la question en fait de qu'est-ce que j'inspire par rapport à l'autre, mais il y a également tous les moyens, l'infrastructure dont je bénéficie ou dont je ne bénéficie pas. Et lorsqu'on est à 5 km de Paris et qu'on utilise les transports en commun et c'est plus d'une heure et demie de transport, eh bien là, il y a encore une discrimination qui est liée à l'accès aux transports publics.
Moi, je voulais dire que en banlieue, il y a une énergie, il y a des talents, il y a un courage incroyable dans un domaine que je connais un peu, le monde du handicap mental notamment. Les meilleurs éducateurs, ils viennent de ces milieux-là parce qu'ils sont confrontés eux-mêmes à des vies souvent difficiles. Et j'ai jamais vu des éducateurs aussi doués, aussi talentueux que les mecs. Ils s'appellent, je les salue au passage, Madi, Salah, Ouloumédine. Ils ont des noms qui plairaient à Éric Zemmour et sont des gens formidables.
Corinne.
Il y a une énergie fabuleuse en banlieue de ce côté-là.
Oui. Qu'est-ce qu'on attend de l'État, en fait, en deux mots? Qu'est-ce que vous attendez de l'État, justement, pour mettre fin, en tout cas, au maximum à ces discriminations? On sait très bien que ça va pas partir comme ça, comme avec une baguette magique.
Je pense qu'on est tous aujourd'hui en capacité de considérer qu'il y a une vraie injustice, et on est tous d'accord pour dire qu'il faut contourner le phénomène. Ce qu'on attend de l'État aujourd'hui, c'est peut-être de mettre en œuvre une organisation qui soit capable de dépasser simplement une réflexion ou un diagnostic, mais qui est capable de mettre en œuvre des solutions efficaces, durables, pour pouvoir plus de changements systémiques in fine. Voilà, c'est ça le problème, c'est-à-dire qu'on a du mal à mettre en mouvement en fait des solutions qui existent, qui ont fait leurs preuves, qui ont de l'impact social et qui sont absolument pas portées. Donc il faut sortir de la démarche intellectuelle pour être beaucoup plus opérationnel.
Et il y a la question de la formation aussi, on l'a évoqué avec le Bondy Blog, la création de ce site a permis aussi de voir émerger des journalistes qui viennent d'autres milieux et qui accèdent aux grandes rédactions, et c'est là aussi qu'on fabrique l'information dont on est abreuvé. Il y a des passerelles qui sont organisées, est-ce que ça marche aussi entre les grandes écoles et des lycées de banlieue pour faire en sorte que l'élite ne soit pas simplement représentative de celle qu'elle était avant?
Alors souvent on nous a expliqué en fait que on ne recrutait pas dans les banlieues parce qu'il n'y a pas de gens compétents.
Oui, bah oui, ça a longtemps été le discours.
Le film démontre que c'est pas possible de continuer à tenir ce tir de discours. Ensuite on nous a expliqué que les cycles de formation n'étaient pas à la hauteur ou n'étaient pas capables en fait d'intégrer. Et on pense que aujourd'hui c'est dépassé. Quand on voit le travail merveilleux qu'a fait Sciences Po depuis une dizaine d'années aujourd'hui, on voit bien qu'il y a de plus en plus de boursiers de tout horizon, de toute origine culturelle qui intègrent. Il y a encore un effort à faire dans les autres grandes écoles, mais en fait aujourd'hui c'est plus une histoire en fait de qualification de diplôme, c'est juste une histoire d'ouverture et de faire confiance à l'autre. Et voilà, quand on fait confiance, il se passe des choses positives.
Saïd Amouche, merci d'avoir été avec nous. Avec Sabrina Ouazani, Mohamed Hamidi, manquait plus que le couscous et moi j'étais un dimanche en famille. Voilà.
Mohamed Hamidi, vous attendiez à 24 heures de la sortie du film d'avoir un cri de promo comme ça, le film doit être déclaré d'intérêt général?
Ah non, je vous avoue que ça fait très plaisir à entendre, mais je connais bien le travail de Saïd Amouche parce que forcément on est originaire de la même ville et même si c'est une grande ville, on s'est croisé quelques fois. Non, écoutez, ça fait très plaisir. Effectivement, moi même si le film est une comédie, il a avant tout été fait pour ça. Il y a un fond social, socio-économique dans ce film. Et je suis content que ce film, effectivement, ait cette double lecture-là.
C'est ce qui en fait une comédie réussie.
Merci beaucoup.
Et si jamais vous avez un problème avec des gens qui ne se garent pas ou qui se garent mal, demandez conseil à Sabrina. Elle saura dégager la voiture.
Tout
vous en avez
fait.
L'illustration.
Non,
n'hésitons pas à le répéter. C'est un film qui est extrêmement drôle, notamment par vos interventions, évidemment, celle de Malik Bentala. Tanguy, vous êtes venu nous retrouver. Quelle bonne idée. Il paraît que c'est la stupeur chez nos confrères d'Europe 1.
Oui, puisque Mediapart a révélé que jusqu'en 2017, des notes étaient rédigées à propos des auditeurs qui téléphonaient. Alors certains en écrivaient deux, pauvres cons, d'autres, Trente Tekel, fan d'Amel Bent ou fort accent. Puis on réalisait que c'était Jean-Michel Apathy qui appelait pour un problème sur sa paye. Bref, c'est pas joli joli, mais nous à Inter, on est mieux que ça.
C'est vrai qu'on est mieux que ça et on retrouvera évidemment de quoi ça parle sur Europe 1 grâce à vous, notre doux Tanguy Pastureau. Nous sommes ensemble jusqu'à midi et demi avec Sabrina Ouazani, Mohamed Hamidi pour Jusqu'ici tout va bien, le film qui sort demain, tout de suite. Retour de la bande originale, toujours sans Aguimé, avec Albert Algou.
Bonjour.
Alexis Le Rossignol.
Bonjour.
Fred Sigrist.
Bonjour.
Dans quelques minutes, il est déjà là, Tanguy Pastureau pour Maltraiter l'info. Et bien entendu, Leïla Kadour Boudel.
Bonjour à tous, Daniel Morin, bonjour. Nos invités Sabrina Ouazani et Mohamed Hamidi.
Oh oh.
Jusqu'ici tout va bien. Demain, en salle, à aller découvrir l'histoire de ce chef d'entreprise incarné par Gilles Lellouche, obligé après un contrôle fiscal de débarrasser le quartier parisien un peu bobo pour aller s'installer à la Courneuve, pour être en règle avec la législation qui lui permet d'avoir un certain nombre d'exonérations et l'obligation aussi de recruter sur place 30% de ses effectifs pour entrer bien dans les cadres de la loi. Cette comédie qui nous permet ainsi d'aller d'un univers à l'autre, on a parlé de la bande-son, la musique avec tout à l'heure NTM et l'arrivée dans un autre univers avec d'autres usages, d'autres codes. Mais il y a aussi des musiques qui réunissent parce que c'est aussi ça l'idée, c'est de se dire qu'on n'est pas si différent, avec un gros coup de cœur pour Barry White.
On connaît bien la patte, Mohamed Hamidi.
Ouais,
Samedi soir, 22h15. Exactement.
Avec une scène quand même qui est très drôle, c'est la leçon de marketing entre Bibiche, le vendeur de shit, et Gilles Lelouch. Parce que c'est aussi les valeurs qui sont un petit peu exposées, c'est cette notion de solidarité au sein de la cité. À partir du moment où il s'installe là-bas, qu'il accepte les codes, il va donner des coups de main et il va en recevoir aussi un gros coup de main parce qu'il a besoin de liquidité. Et il va essayer d'expliquer à Bibiche comment faire de son produit, donc du shit, hein, avec modération, j'allais dire, c'est interdit, c'est illégal. Comment faire, j'allais dire avec modération.
Service public, les gars. Quoi.
Pardon. Comment faire de son shit une vraie marque. C'est le shit, Bibiche.
Bibiche. Bah ouais. Non, mais c'est vrai qu'en fait, moi, c'est le marketing, ça m'a souvent intéressé. Forcément, j'ai un peu étudié ça. Et que, en fait, les types demandent à Gilles, donc Karim Belkadra, qui incarne Bibiche, demande à Gilles comment faire. On s'en sort pas. Les types vendent plus que nous. Quoi
alors
faire
que, alors que leur shit est moins bon.
Alors
que,
Et donc, Gilles leur donne quelques conseils de packaging, l'emballage. Trouver une marque, l'emballage, fidéliser le client, etc. Donc, créer la marque Bibiche. Et donc, il crée la marque Bibiche. Voilà, c'est des conseils de marketing pour être plus performant sur le marché.
Donc vous avez bien compris, les amis. Hein, si vous avez des problèmes pour écouler votre shit, si vous avez besoin de petits conseils bon, de marketing, allez voir le film, voir Jusqu'ici tout va bien, qui, je vous le rappelle, sort en salle demain. Tanguy Pastureau, vous nous avez rejoint. Et Tanguy, s'il vous plaît, ne me dites pas... Vous ne savez pas que... Attendez, non, je vous ai mal annoncé. Tanguy Pastureau est parmi nous. Aussi. Voilà, comme il le mérite. Tanguy, vous n'avez pas réellement envie de savoir ce que je pense de vous, soyez honnête.
Non, Daniel, même si je sais que derrière votre apparence de vieil ours qui s'habille chez Célio, parce qu'il a réussi à faire croire à sa femme qu'en tout sur l'année, il ne touche que 300 euros de droits d'auteur, se cache un être gentil et doux. Le public ne le sait pas, mais chez vous, vous logez 14 migrants, hein, que vous nourrissez gratis contre leur participation à l'un de vos petits films UX, que vous mettez en ligne sur votre site, Daniel et Michel et Babacar et Farida et Amadou et Jean-Luc, un ami responsable d'une ONG qui s'est engagé en Méditerranée pour le sexe. Lorsqu'un bateau coule, il baisse son slip et hurle aux réfugiés. Si vous voulez sauver votre peau attrapée, il n'y a que ça. Vous êtes Daniel, un être exquis. Leïla aussi, elle qui, malgré son bagage intellectuel, n'hésite pas à venir vers moi le matin pour me dire bonjour. Puis on parle du temps qui fait parce qu'elle sait que le livre le plus profond que j'ai aimé, c'est l'almanach 2005 des grosses têtes. Donc il reste le temps qui fait, qui est le sujet dont on parle avec les cons. Ce qui prouve qu'Evelyne Delia nous met tous depuis 25 ans. Mais les autres gens ne sont pas comme vous, Daniel, et il a des pépites humaines qu'on a envie d'empailler à leur mort afin que les générations suivantes en profitent. Non, ce sont des ordures, l'image de ce que l'humanité a produit de pire. Regardez ce qui s'est passé pendant 15 ans à Europe 1, cette paisible station de radio qui a vu un à un l'ensemble de ses auditeurs partir. Si on met les auditeurs d'Europe plus les militants socialistes dans la même pièce, ils sont 37. À côté, Bayrou, c'est Kim Jong-un qui salue ses troupes pour la traditionnelle fête de Kim Jong-un, qui a lieu chaque jour du 1er janvier au 31 décembre, appelée la nuit de la cinquième. Europe 1, si vous n'avez pas suivi l'affaire parce que vous étiez occupé à travailler entre autres activités vaines, affichait jusqu'en 2017 les gens qui appelaient pour passer à l'antenne. Ces mégalomanes timbrés qui imaginent que leur avis a une importance. Ce sont les mêmes qui lèvent le doigt dans une réunion du grand débat national face à Macron. Hein, tandis que lui pense dans sa tête « Mange-toi Gisèle, derrière j'ai 40 SDF à voir, plus un paysan qui me pleure sous les selles droites, ensuite j'enfile ma cape de super Herman et Gérard Larcher me lancent en l'air pour que je vole. C'est Mediapart, le site d'Edoui Plenel, l'un des 3 millions de moustachus de gauche, qui révèle l'affaire. Ils se sont aperçus que dans l'ordi à Europe 1 étaient stockés les noms des auditeurs qui téléphonaient, plus des annotations personnalisées sur certaines fiches. Et ça devait être un stagiaire atteint de la tourette qui s'en chargeait, parce qu'elles sont plus vulgaires qu'un chabit, organisé par Jean-Marie Bigard sous une œuvre clinquante de Jeff Koons. Exemple, à propos d'un auditeur, il était écrit « Voix de vieille pédale ». Hein, même dans les morceaux de raga les plus homophobes, comme pas de kiki pour Bibi de Kingman hétéro, on n'entend pas ça. Sur une autre était écrit « Accent du Maghreb, pas toujours clair, bavarde ». Ils ont quand même trouvé la Ariel Dombal arabe. Hein. Mais également « Connard qui nous a déjà bien fait chier ». C'est aussi ce qu'ils écrivent dans l'afterfoot d'RMC quand un mec veut parler de hand.
Mais à quoi servaient ces annotations, Tanguy?
Eh ben, il a trié les auditeurs. Hein, parce qu'il était aussi marqué qui avait un cancer, qui était séropositif. Or, sur une radio, ça plombe la bonne humeur de l'enfant.
l'antenne. Donc on les passe plus. Moi, quand en 94, j'ai appelé Doc et Difool pour leur dire que j'avais des pustules sur la verge, eh ben, ils m'ont viré. Hein, et ont passé à ma place une fille dont le petit ami la pénétrait par le nombril. Un truc d'amour trop intense de la maman qui avait été mal réglé. Mais ce qui est lamentable dans cette affaire, c'est le degré de vulgarité employé vis-à-vis des auditeurs qui font et défendent notre succès. Les boss, c'est eux. Moi, demain, si j'arrête d'exploser l'audience sur les CSP+ de droite, mais après-demain, mon badge ne passe plus. Je me retrouverai devant la maison de la radio comme une buse. Léa Salamé me donnera la pièce en me disant « Courage Thierry !» Je répondrai « Mais enfin, c'est Tanguy, on a bossé ensemble !» Elle me répondra « C'est ça, maintenant tu me lâches la jambe, sinon j'appelle les flics hein, !» Tout ça parce que par désespoir, je me serais accroché à elle en mouchant dans son jean et en menaçant de m'immoler par la bûche humide. C'est la même chose que par le feu, sauf qu'on ne l'allume pas parce qu'on déteste la douleur physique et la mort. Alors que nous, à Inter, on pense la même chose de nos auditeurs, mais on leur dit directement, parce que soit on est honnête, soit on est trop con. Tiens, prenez cette émission. On passe notre temps à dire qu'ils sont vieux. Alors que si je regarde le public ce midi, quand je les ai face à moi, j'ai l'impression d'être Franck Michael à l'Olympia. Hein, à la différence qu'ici, personne ne me jette sa culotte à la tête. Hein, ce qui tombe bien, parce que ça tue le glamour. C'est pour ça qu'Alain Delon, dans la piscine, mettait son slip de bain sur ses fesses et pas sur sa tête. Hein, quitte à paraître trop conventionnel aux yeux de Romy Schneider. Nous, on leur dit à nos auditeurs que ce sont des profs de gauche croulants en congé maladie. On n'a pas besoin d'écrire ça sur une fiche comme ces bourses molles d'Europe 1. Nous et nos auditeurs, c'est une relation SM. Tous les midis, on les fouette et ils en redemandent. C'est bon, hein, mes petits porcs. Vous aimez ça vous faire traîner dans la boue par des intermittents. Mais on les fiche pas. D'abord parce que le système informatique est géré par la CGT Radio France et que les ordis fonctionnent de 10h30 à midi, puis après déjeuner de 15h à 15h30. Hein, le reste du temps, il y a des petits roumains qui pédalent pour produire le jus. Mais aussi parce qu'on les aime. Oui, auditeurs d'Inter, je t'aime, je pense à toi, tu es mon bichon, passe une belle journée mon chéri, mon vieux chéri.
Merci, bravo Tanguy Pastureau.
Jusqu'ici tout va bien, en salle.
Il file.
Non mais on aime nos auditeurs, bien sûr, on les appelle pas comme ça, mais bon, en tout cas nos auditeurs, on vous recommande d'aller voir Jusqu'ici tout va bien en salle demain avec Sabrina Ouazani, avec Gilles Lellouche, avec Malik Bentala, un film réalisé par Mohamed Hamidi. On a parlé de l'environnement musical qui pose un peu le décor avec NTM, avec Barry White, ça c'est le côté gros lover de Mohamed Hamidi. Il y a aussi Amy Winehouse, on l'a évoqué tout à l'heure pendant votre bande originale, mais il y a aussi Isaac Hayes.
On écoute ça juste avant de mettre le Barry White. Juste avant.
C'est ça. Et une musique de film aussi qui est signée Ibrahim Malouf.
Ah oui, le grand Ibrahim Malouf. Qui pour moi est au niveau des autres. Hein. Il est largement au niveau de Isaac Hayes et de... Et des autres compositeurs qui sont dans le film. Très grands musiciens.
Ah oui, qu'on a. Et plusieurs générations aussi. Et d'ailleurs, dans le film, dans Jusqu'ici tout va bien, vous ne vous intéressez pas qu'au recrutement sur place des habitants de la Courneuve. Il y a aussi les petits gamins qui traînent autour de l'entreprise, qui raquettent, hein, on va le dire clairement, Gilles Lellouche.
Qui s'ennuie beaucoup.
Et on sent que... 20 euros pour acheter des bonbons.
Ouais, ouais, et on sent qu'en fait, très rapidement, c'est des gamins qui peuvent basculer d'un côté ou de l'autre selon comment on les regarde et comment on leur parle, en fait.
Exactement. C'est pour ça que leur présence est intéressante. Il y a plusieurs générations dans ce film. Et ce petit Isma, là, qui a 12 ans, qui vient, qui essaie de qu'enlève les plombs de l'entreprise en disant, voilà, je te les rends si tu me donnes 20 euros, en gros, pour m'acheter des bonbons.
Ouais.
On sent qu'effectivement, il peut aller soit vers Samy, donc vers, qui joue par Mike Bentala, c'est-à-dire le petit jeune sympa, dynamique, qui a envie de faire des choses, ou alors vers Sadek, qui est la petite,
La petite frappe.
Ouais. Mmh. Effectivement, ce qui est intéressant, c'est vraiment ce que je pense à cet âge-là, c'est les modèles qu'on a en face de soi, et voire même les profs ou les éducateurs, qui vont nous faire pencher d'un côté ou de l'autre. Et on voit bien que ce gamin-là, il demande qu'à être aimé, en fait. Il demande qu'à ce qu'on l'accueille.
Oui, c'est ça, et c'est ce que fait
Gilles. Ouais, et c'est un élément déclencheur parce que finalement, le lien que Gilles Lellouche, son personnage en tout cas, va entretenir avec ce petit gamin, va lui aussi lui permettre de se rapprocher de son propre fils dont il avait un petit peu perdu, avec qui il avait perdu le contact.
Exactement, ce retour en banlieue, enfin ce déplacement en banlieue pour Gilles, c'est aussi l'occasion de répéter longtemps à sa femme qu'il a apparemment un peu négligé ces dernières années, qu'il a changé, un peu comme Nicolas Sarkozy, en disant j'ai changé. Et lui, il arrête pas de dire à sa femme, tu sais, cette nouvelle vie m'a beaucoup changé. Donc je suis plus le même mec qu'avant. J'ai appris, je suis un peu plus humain, un peu plus ouvert à l'autre. Je ferai un peu plus attention à toi. Et il essaie de la reconquérir en utilisant ce déplacement pour aller la revoir et aussi en s'occupant de son fils et en l'amenant avec lui à la Courneuve, ce qui donne aussi des scènes assez intéressantes.
Et ce trajet là aussi, oui, il y a la scène en famille, le soir où tout le monde est autour de la table et où on raconte que les méthodes éducatives sont pas les mêmes parce que quand Malik Bentala, enfant, déviait un petit peu, on lui promettait d'aller 2 mois au bled et il revenait, il se tenait droit. En revanche, Gilles Lellouche, lui, c'est la méthode plutôt plus occidentale calme, on l'envoie en Angleterre pendant 2 mois, ce qui est plutôt perçu comme des vacances, on va le dire comme ça.
Totalement.
Et votre personnage, à vous aussi, Sabrina Ouazani, fait un chemin aussi de cette responsable d'agence numéro 2 qui, même physiquement, est très, très, très adaptée au code. Les cheveux sont très lisses, la tenue est aussi passe-partout pour s'adapter à l'univers un peu parisien. Elle aussi, elle franchit.
Elle fait un petit peu ce chemin-là. Finalement, elle évolue et elle tend vers cette banlieue et vers effectivement quelque chose qu'elle va à nouveau apprécier. C'est aussi un film sur le vivre ensemble finalement, entre autres.
Et sur les origines aussi. Oui.
On est bien dans cette bande originale avec comme invité jusqu'à 12h30 Sabrina Ouazani et Mohamed Hamidi pour ce film très drôle, jusqu'ici tout va bien, qui sort demain. Radio Elvis, ceux qui nous fument dans la bande originale sur France Inter.
Ce n'est pas le revoir, ce dernier mot dans nos regards. Tout ne meurt pas en un soir, non, ce n'est pas ça le revoir. Ce n'est qu'une fin du monde, une longue maladie sans mémoire. Tout s'est écrit dans nos ombres, nous n'avons pas voulu le voir. Tout ce qui nous fume est dans tout ce que nous fume. Tu vois tout ce qui nous fume est dans tout ce que nous fume. Et dans tout ce que nous fume, tu vois tout ce qui nous fume, et dans tout ce que nous fume. Nous avons tous les mêmes prisons, les mêmes désir à faire naître avant de tout faire disparaître aux couleurs tristes des maisons. Dans l'alcool caché sous l'évier, les silences lourds des dîners. Nous avons tous ce vide immense, ce sourire pâle à maquiller. Mais ce n'est qu'une fin du monde qui s'écrit sans nous le dire. Sous les cigarettes qui flambent, tout le monde se cache pour vieillir. Tout ce qui nous fume est dans tout. Tu vois tout ce qui nous fume, et dans tout ce que nous fume. Tout ce qui nous fume, et dans tout ce que nous fume. Tu vois tout ce qui nous fume, et dans tout ce que nous fume. Dessiné au hasard de nos mains trop lentes à écrire le sens caché de notre histoire. Tout ce qui nous fume est dans tout ce que nous fume. Tu vois tout ce qui nous fume est dans tout ce que nous fume. Tout ce qui nous fume est dans tout ce que nous fume. Tu vois tout ce qui nous fume est dans tout ce que nous fume. Et dans tout ce qui nous fume, tu vois tout ce qui nous fume. Et dans tout ce qui nous fume, tout ce qui nous fume. Et dans tout ce qui nous fume, tu vois tout ce qui nous fume. Et dans tout ce qui nous fume.
« Ceux qui nous fument, Radio Elvis. Radio Elvis, un groupe très France Inter. Bourré
oui, de talent, non? Absolument, qui seront au Trianon le 4 avril. J'ai dit ça, j'ai rien dit. On continue avec nos invités, Sabrina Ouazani et Mohamed Hamidi. Pour Jusqu'ici, tout va bien. Petit clin d'œil à La Haine. Mais là, un film en effet qui parle de banlieue, mais avec réjouissance, avec sourire, avec cette envie de se dire, finalement, si on se rencontrait, on n'aurait plus peur l'un de l'autre. Franchissons le périph dans les deux sens, ouais. En fait. C'est un peu le message.
Exactement. Sans voiture.
Et c'est, voilà. Alors,
non, mais c'est vrai, c'est important parce qu'il y a autant des préjugés de chaque côté et des banlieusards sur Paris et de l'un et de l'autre, quoi.
En ce qui le concerne, il y a beaucoup de préjugés, mais là, ils sont tous fondés, ces sœurs. Frédéric Sylvestre.
Allez, fais-moi. Oui,
Daniel. Alors, j'ai fait un bilan, j'ai 41 ans. Et je regardais le programme.
Seulement?
Oui,
il fait
41
plus,
ans, ouais.
Ah ouais?
Il est tapé, hein.
Ah ouais, enfin, c'est Albert qui dit ça. J'ai 41 ans et je regardais le programme télé de dimanche dernier et il passait Les Bronzés font du ski à la une et Rabbi Jacob à la deux.
Ah, ouais.
Eh bien, figurez-vous que quand j'avais 12 ans, il passait Les Bronzés font du ski à la une et Rabbi Jacob à la deux. Non, mais on tourne en rond, Daniel, et là, c'est un truc. C'est un petit peu comme si toi, Daniel, t'étais sur Inter à 11h depuis une éternité, tu vois, à l'époque de Stéphane Bern. Enfin, ça serait l'horreur, quoi.
Ouais. Ça serait fou.
Enfin, moi, je veux bien que les chaînes de télé s'inquiètent de l'essor de Netflix, mais il y a un moment, faut s'aider quand même. Hein. Non, mais c'est vrai, vous vous rendez compte, Michel Drucker, il était déjà dans les archives de l'INA en noir et blanc. Il a fait le passage à la télévision couleur, au numérique, à Internet. Le mec a une longévité supérieure à ses canapés. Il a survécu à 252 chiens. Mon fils, c'est pareil. Mon fils, il a 9 ans, à la télé. Qu'est-ce qu'il regarde ? Dragon Ball, comme moi. Ouais. Pokémon, comme moi.
Bon goût.
Au cinéma, il veut voir quoi ? Star Wars, comme moi. Mais des fois, je lui dis, putain, get a life ! Bonjour ma personnalité, quoi. Moi, j'aurais jamais regardé la même chose que ma mère. Déjà, parce que ça n'existe plus. Va trouver un reboot de Thierry Lafronde, une suite d'un magazine qui s'appelait Bernadette, hein, Nad pour les intimes. Non, nous, dans les années 80, on a inventé nos trucs. Rocky, Rambo, Terminator, Alien, Ghostbusters, Indiana Jones. Mais vous imaginez toutes les mythologies modernes qui ont nourri notre imaginaire ? Aujourd'hui, tu regardes ce qu'Hollywood te propose. Creed, la suite de Rocky. Il te tourne un nouveau Rambo, une suite d'Alien, un nouveau Ghostbuster et un nouvel Indiana Jones. J'ai envie de dire au producteur la même chose que j'ai dit à mon fils. Get a life and get a scénariste. Les bonnes idées, c'est comme le savon. Moins t'en as, plus tu frottes longtemps pour que ça mousse. Alors, je vois bien l'idée qu'il y a derrière tout ça. Oh, ben, j'étais heureux quand ces films sont sortis sur grand écran. Donc, si on les refait sortir aujourd'hui, eh ben, je serai de nouveau heureux. Oui, enfin, j'étais heureux quand j'étais enfant, c'est pas pour ça que je vais me mettre à téter ma mère, hein. En plus, elle a 64 ans, je suis pas sûr que la société soit prête à ce niveau de nostalgie. Non, mais c'est vrai, en plus, on a la nostalgie d'un passé qui n'existe pas. Et surtout qu'on fantasme. Les 30 glorieuses, oh, les 30 glorieuses, le plein emploi, les libertés sexuelles, les mini-jupes, Brigitte Bardot et Alain Delon. Eh ben, regardez-les aujourd'hui, Alain Delon et Brigitte Bardot. Ça devrait bien nous faire réaliser qu'il y a des choses qu'on mal vieillit, hein. Les 30 glorieuses, c'est pareil. Parce que ce dont les gens sont nostalgiques, en fait, c'est surtout de leur jeunesse. C'est ça qui leur manque. Parce que dans les faits, les 30 Glorieuses, c'était quand même 20 000 morts sur les routes. Ouais. Les dodanes, à l'époque, on appelait ça un cadavre. Jusqu'en 1965, les femmes n'avaient pas le droit de signer un chèque sans l'autorisation de leur mari. Leïla, vos ardoises de plusieurs centaines d'euros pour vos cocktails vodka poppers dans tous les bars de Paris, eh ben, vous auriez jamais pu les payer. L'insécurité dans Paris. Aujourd'hui, il y a des gens qui chouinent parce qu'ils peuvent se faire renverser par des trottinettes électriques. Oh, le boubuque. Mais à l'époque, t'allais acheter ton pain, tu disais au revoir à tes gosses. Une Kaira d'aujourd'hui, elle se serait promenée dans le Paris de l'époque, elle aurait baissé les yeux. Vas-y, dit Michel, laisse-moi tranquille avec ton perfecto, ta banane, ton foulard et ta chaîne de vélo. Là, je veux juste rentrer chez moi, laisse-moi tranquille. Ce qu'on oublie aussi, c'est l'extrême pauvreté dans les campagnes. Il y a des villages, un seau d'eau, c'était un dilemme. Est-ce qu'on se douche ou est-ce qu'on le boit? Et puis c'est les maladies à la con, en 1957, la grippe asiatique. 2 millions de morts, dont 31 000 en 2 mois, rien qu'en France. À l'époque, on disait pas à tes souhaits, mais à tes derniers souhaits. Et au mien aussi, par la même occasion. Donc la nostalgie, moi je veux bien, mais quand on se recroqueville comme ça sur un passé idéalisé, franchement, c'est qu'on a perdu foi en l'avenir. Alors qu'il y a quand même des raisons d'espérer, bon sang, aujourd'hui. Bon, là, ça me vient pas parce que j'ai que 3 minutes et que Daniel Morin est encore là. Mais bon, si j'avais vraiment cherché, je suis sûr que je vous en aurais trouvé.
Bravo, Frédéric Sylvestre. La bande originale.
France Inter. Que nous réservent les jours qui viennent demain, donc la sortie de Jusqu'ici, tout va bien. Mais vous enchaînez avec quoi, Sabrina Ouazani? Vous avez déjà
j'enchaîne
des...
avec mon prochain film qui s'appelle Les Fouteuses de Mohamed Hamidi.
Ah voilà.
Qui sortira bientôt.
C'est quand la sortie du film?
Je pense que ça rentrera, ça sortira à la rentrée, probablement fin septembre.
Avec Malik Bentala aussi ou pas?
Non, alors non.
Alors c'est une première défection, parce que là d'habitude il est de tous vos projets.
C'est vrai. Mais là, en fait, voilà.
C'est Sabrina qui a repris le relais.
Il y a Sabrina, il y a Laure Calamy, Céline Salette, il y a Kadmerad, il y a Alban Ivanov, Marion Mesadorian, Alexandra Roth. Une pléiade d'acteurs et d'actrices
incroyables.
Donc
incroyable. On surveille ça pour la rentrée. Et Sabrina
juste
Ouazani.
Après la Coupe du Monde de foot que la France aura
gagnée. Exactement, on espère.
Sabrina Ouazani, vous avez réalisé un court-métrage qu'on avait vu dans cette émission On va manquer, qui avait été présenté au Festival de Cannes. Ça donne envie de continuer. Il y a des choses dans ce...
Oui, ça continue, ça écrit, J'écris, oui, effectivement. Et là, Oui, j'ai tellement aimé ça que j'espère pouvoir y retourner. Ouais.
D'accord. Mohamed Hamidi, la suite, il y a donc Les Fouteuses. Donc à la rentrée, ça vous tient chaud, j'imagine.
C'est vrai.
Vous êtes déjà parti sur autre chose. Vous êtes ce genre de réalisateur à avoir déjà deux coups d'avance.
C'est toujours, effectivement. mon prochain film, je l'espère, et je suis en train d'y travailler, ce sera un film avec Jamel Debbouze en premier rôle.
Ouais.
Ça fait des années qu'on attend ça ensemble. Ça fait 12 ans maintenant qu'on se voit presque au quotidien et qu'on monte sur scène. Enfin, qui monte sur scène et que je fais sa mise en scène, etc. On a eu beaucoup envie de faire des films. Il a été dans mes deux premiers films, il n'est pas dans les deux derniers. Et franchement, c'est réservé pour un projet en commun et c'est ce qu'on va faire, je pense, dès l'année prochaine. Je pense qu'on tournera début 2020 ensemble.
Je ne sais pas quand est-ce que vous dormez. Je sais pas quand est-ce que vous dormez parce que deux films en un an, c'est deux sorties en un an, c'est quand même pas mal. Il est temps de vous présenter nos excuses,
oui,
Mohamed Hamidi et Sabrina Ouazani.
Alors déjà, je suis désolé pour tes parents, Leïla.
Oui,
les parents de Leïla Kadour Boudadi qui malheureusement ont eu la confirmation que leur fille ne leur offrirait jamais de maison. Elle aime l'idée, mais elle a décidé de tout dépenser en vodka, poppers et bretzel.
Je suis une flambeuse.
Désolé pour nos auditeurs racistes qui ont trouvé qu'avec Sabrina, Leïla, Mohamed, Saïd, notre bande du matin était quelque peu basanée. Alors comment vous dire, les amis, c'est peut-être ça la France d'aujourd'hui. En plus, vous plaignez pas, il n'y avait pas Nagui. Désolé pour Mohamed Hamidi qui aujourd'hui, à 24 heures de la sortie de son film, n'a pas eu sa dose de plaisir, sa dose doudou. Mais on est sur Inter, et nous, sur Inter, on sait faire plaisir à nos invités.
Vous êtes fort.
De quoi vous souhaiter une bonne route avec Jusqu'ici, tout va bien.
Merci.
On croise les doigts pour vous demain.
Film très très drôle.
Ouais, merci d'avoir été avec nous, Sabrina Ouazani. C'est toujours un plaisir. Mohamed Hamidi, on était ravis de vous faire votre rencontre ici à la bande originale. Demain, on reçoit Lambert Wilson, un peu l'ange gardien de Sabrina Ouazani à Cannes.
On n'avait pas prévu, mais comme vous avez dit qu'il était bien, on l'invite demain.
Oh, super.
Excellent acteur.
Si vous pouvez acheter le DVD pour revoir La Vache, qui est un film formidable.
Eh ben, on prend ce conseil d'Albert.